mimétiquement vôtre, voir le monde avec René Girard.
Une émission proposée par Jean-Louis Salasque.
Qui est Satan ? René Girard, dans sa théorie mimétique, en propose une interprétation tout à fait originale. Voici comment il l'explique dans un ouvrage qu'il a publié en 1999, « Je vois Satan tomber comme l'éclair ». René Girard. Pour confirmer la présence dans les évangiles de ce que j'appelle le cycle mimétique, il faut se tourner vers une notion, ou plutôt un personnage très dédaigné de nos jours, même par les chrétiens. Les évangiles synoptiques l'appellent de son nom hébreu, Satan. L'évangile de Jean l'appelle d'un nom grec, le diable. À l'époque où, guidé par le théologien allemand Rudolf Bultmann, tous les théologiens à la page démythologisaient les Écritures à tour de bras, ils ne faisaient même pas aux princes de ce monde l'honneur de l'inscrire à leur programme. En dépit de son rôle considérable dans les évangiles, le christianisme moderne ne tient guère compte de lui. Si l'on examine les propositions évangéliques sur Satan à la lumière de nos analyses, on s'aperçoit qu'elles ne méritent pas l'oubli où elles sont tombées. De même que Jésus, Satan cherche à se faire imiter, mais pas de la même façon, pas pour les mêmes raisons. Il veut d'abord séduire. Le Satan séducteur est le seul dont le monde moderne daigne un peu se souvenir, pour plaisanter à son sujet, bien entendu. Satan se propose, lui aussi, comme un modèle à nos désirs. Et il est plus facile à imiter que le Christ, car il nous conseille de nous abandonner à tous nos penchants, au mépris de la morale et de ses interdits. Si l'on écoute ce très aimable et très moderne professeur, on se sent d'abord libéré. Mais cette impression ne dure pas, car tout ce qui protège du mimétisme conflictuel, si on écoute Satan, on en est vite privé. Au lieu de nous avertir des pièges qui nous attendent, Satan nous y fait tomber. Il applaudit l'idée que les interdits ne servent à rien et que leur transgression ne comporte aucun danger. La route où Satan nous lance est large et facile. C'est la grande autoroute de la crise mimétique. Mais voilà que soudain, entre nous et l'objet de notre désir, un obstacle inattendu surgit. Et mystère des mystères, alors que nous croyions avoir laissé Satan loin derrière nous, c'est lui qui nous barre la route, ou l'un de ses suppôts. C'est la première des nombreuses métamorphoses de Satan. Le séducteur des débuts se transforme vite en un adversaire rébarbatif, un obstacle plus sérieux que tous les interdits pas encore transgressés. Le secret de cette fâcheuse métamorphose est facile à découvrir. Le second Satan, c'est la conversion du modèle mimétique en obstacle et en rival. C'est la genèse des scandales. Parce qu'il désire lui-même ce qu'il nous pousse à désirer, notre modèle s'oppose à notre désir. Au-delà de la transgression, se dresse donc un obstacle plus coriace que tous les interdits, dissimulé d'abord par la protection même que procurent ces derniers aussi longtemps qu'ils sont respectés. Ce n'est pas moi seulement qui assimile Satan au scandale. C'est Jésus lui-même, dans une apostrophe véhémente à Pierre. « Passe derrière moi, Satan, car tu es pour moi un scandale. » Pierre s'attire cette algarade en réagissant négativement à la première annonce de la Passion. Déçu par ce qu'il prend pour la résignation excessive de Jésus, il s'efforce de lui insuffler son propre désir, sa propre ambition mondaine. Pierre invite Jésus, en somme, à le prendre lui-même pour modèle de son désir. Si Jésus se détournait de son père pour suivre Pierre, Pierre et lui tomberaient vite dans la rivalité mimétique et l'aventure du royaume de Dieu s'effondrerait dans des querelles dérisoires. Pierre se fait ici le semeur de scandale, le Satan qui détourne les hommes de Dieu au profit des modèles rivalitaires. Satan sème les scandales et reçoit la tempête des crises mimétiques. C'est pour lui l'occasion de montrer ce dont il est capable. Les grandes crises débouchent sur le vrai mystère de Satan, sur son pouvoir le plus étonnant, qui est celui de s'expulser lui-même et de ramener l'ordre dans les communautés humaines. Le texte essentiel au sujet de l'expulsion satanique de Satan est la réponse de Jésus à des gens qui l'accusent d'expulser Satan par Béelzéboul, le prince des démons. Comment Satan peut-il expulser Satan ? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume-là ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison-là ne pourra pas se maintenir. Si donc Satan est jeté contre lui-même, il ne peut pas tenir, il est fini. Marc 3, 23 à 26. Accuser un exorciste rival d'expulser les démons par l'intermédiaire de Satan devait être une accusation banale à l'époque. Jésus veut faire réfléchir à ses implications. S'il est vrai que Satan expulse Satan, comment s'y prend-il? Comment ce tour de force est-il possible? Loin de nier la réalité de l'auto-expulsion satanique, ce texte l'affirme. La preuve que ce pouvoir, Satan le possède, c'est l'affirmation fréquemment répétée qu'il touche à sa fin. La chute prochaine de Satan, prophétisée par le Christ, ne fait qu'un avec la fin de son pouvoir d'auto-expulsion. Dans Matthieu aussi bien que dans Marc, au lieu de remplacer le second Satan par un pronom et de dire « Comment Satan s'expulse-t-il lui-même ?», Jésus répète le nom Satan. Comment Satan expulse-t-il Satan? La proposition interrogative de Marc se transforme en une proposition conditionnelle. Mais la formule ne change pas. Si Satan expulse Satan. La répétition du mot Satan est plus éloquente que ne serait son remplacement par un pronom. Mais ce n'est pas le goût du beau langage qui l'inspire. C'est le désir de souligner le paradoxe fondamental de Satan. Il est un principe d'ordre autant que de désordre. Le Satan expulsé est celui qui fomente et exaspère les rivalités mimétiques, au point de transformer la communauté en une fournaise de scandales. Le Satan qui expulse est cette même fournaise lorsqu'elle atteint un point d'incandescence suffisant pour déclencher le mécanisme victimaire. Afin d'empêcher la destruction de son royaume, Satan fait de son désordre même à son paroxysme un moyen de s'expulser lui-même. C'est ce pouvoir extraordinaire qui fait de Satan le prince de ce monde. S'il ne pouvait pas protéger son domaine des entreprises qui menacent de l'anéantir et qui sont essentiellement les siennes, il ne mériterait pas ce titre, que les évangiles ne lui décernent pas à la légère. S'il était purement destructeur, Satan aurait perdu son domaine depuis longtemps. Pour comprendre ce qui fait de lui le maître de tous les royaumes de ce monde, il faut prendre à la lettre ce que dit Jésus, à savoir que le désordre expulse le désordre. Autrement dit, Satan expulse réellement Satan. C'est en exécutant cette prouesse peu banale qu'il a su se rendre indispensable et que son pouvoir reste très grand. Comment comprendre cette idée? Revenons au moment où la communauté divisée, au paroxysme du processus mimétique, refait son unité contre une victime unique, qui devient le scandale suprême parce que tout le monde, mimétiquement, la tient pour coupable. Satan, c'est le mimétisme qui persuade la communauté entière, unanime, que cette culpabilité est réelle. C'est assez tard de persuader qu'il doit l'un de ses noms les plus anciens, les plus traditionnels. Il est l'accusateur du héros dans le livre de Job, auprès de Dieu et plus encore auprès du peuple. En transformant une communauté différenciée en une foule hystérique, Satan engendre les mythes. Il est le principe d'accusation systématique qui jaillit du mimétisme exaspéré par les scandales. Une fois que la malheureuse victime est complètement isolée, privée de défenseurs, rien ne peut plus la protéger de la foule déchaînée. Tout le monde peut s'acharner sur elle sans avoir à redouter la moindre représaille. La victime unique est peu de chose, semble-t-il, pour tous les appétits de violence qui convergent sur elle. Mais en cet instant-là, la communauté n'aspire à rien d'autre qu'à sa destruction. Cette victime remplace donc effectivement tous ceux qui s'opposaient les uns aux autres, un peu plus tôt, dans mille scandales éparpillés çà et là, et qui maintenant sont tous rassemblés contre une cible unique. Comme personne dans la communauté n'a plus d'autre ennemi qu'elle, une fois que cette victime est chassée, expulsée, anéantie, la foule se retrouve vide d'hostilité, privée d'ennemis. Il n'en restait plus qu'un et on s'en est débarrassé. Provisoirement, au moins, cette communauté n'éprouve plus ni haine ni ressentiment envers qui que ce soit. Elle se sent purifiée de toutes ces tensions, de toutes ces divisions, de toutes ces fragmentations. Les persécuteurs ne savent pas que leur concorde soudaine, comme leur discorde précédemment, est l'œuvre du mimétisme. Il croit avoir affaire à un être dangereux, maléfique, dont il importe de débarrasser la communauté. Rien de plus sincère que leur haine. Le tous contre un, mimétique, ou mécanisme victimaire, a donc la propriété étonnante, spectaculaire, mais logiquement explicable, de ramener le calme au sein d'une communauté tellement perturbée un instant plus tôt que rien ne paraissait capable de l'apaiser. Appréhender ce mécanisme comme la chose de Satan, c'est comprendre que la formule de Jésus « Satan expulse Satan » a un sens précis, rationnellement explicable. C'est l'efficacité du mécanisme victimaire qu'elle définit. C'est à ce mécanisme que le grand prêtre Caïphe fait allusion lorsqu'il dit « Il vaut mieux qu'un seul homme meure et que le peuple ne périsse pas tout entier ». Les quatre récits de la crucifixion nous font donc assister au déroulement d'un mécanisme victimaire. La séquence, je l'ai déjà dit, ressemble aux innombrables phénomènes analogues dont Satan est le metteur en scène. La preuve que la croix et le mécanisme de Satan ne font qu'un, Jésus lui-même la donne en disant juste avant son arrestation « L'heure de Satan est arrivée ». Il ne faut pas voir dans cette phrase une formule de rhétorique, une façon pittoresque de suggérer le caractère répréhensible de ce que les hommes vont faire à Jésus. Comme toutes les autres phrases évangéliques au sujet de Satan, celle-ci a un sens précis et même quasiment technique. C'est une des phrases qui désigne dans la crucifixion un mécanisme victimaire. Merci de votre écoute. À notre prochaine rencontre.